Le débat africain. Alain Foucault.
Depuis des décennies, elle revient de façon quasi saisonnière en Afrique et elle fait plus de victimes que toutes les pandémies qui touchent la planète. Sur les 155 millions de personnes qu'elle menace, 98 millions sont sur le continent noir. Et les fermetures des frontières, avec la rupture d'approvisionnement imposée par la Covid-19, sont venues compliquer leur situation. La faim, ou pour parler plus proprement comme les spécialistes, l'insécurité alimentaire. Comment un continent avec autant de terres arables et une telle ressource humaine peut-il encore souffrir d'un fléau à la fois aussi meurtrier et aussi dégradant ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'insécurité alimentaire en Afrique après la Covid-19, avec au téléphone plusieurs invités dans quelques capitales subsahariennes. Dans ce magazine consacré à l'insécurité alimentaire, nous avons plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, M. Sékou Sangaré, qui est commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Bonjour, M. Sékou Sangaré.
Bonjour.
Second invité de ce plateau, M. Ibrahim Koulibaly, président du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, M. Ibrahim Koulibaly.
Bonjour, M. Foucault.
Notre troisième invité est M. Olosib, conseiller régional senior pour les questions de recherche, analyse et suivi au bureau régional du programme alimentaire mondial, le PAM. Il est basé à Dakar, au Sénégal. Bonjour, M. Olosib.
Bonjour, Alain Foucault.
Notre quatrième et dernier invité, pas des moindres, est M. Amadou Ebié, chargé de programme sécurité alimentaire régionale, secteur développement humain et social de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Bonjour, M. Amadou Ebié.
Bonjour, Alain Foucault.
Alors, j'ai envie de commencer en disant, à chaque fois où l'on parle de famine, on regarde vers l'Afrique. À chaque fois où l'on parle de famine, le nombre est quand même assez impressionnant lorsqu'on le regarde. Et on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'un continent aussi vaste, avec autant de terres arables, soit encore celui de la famine? Et ma question s'adresse d'abord à M. Amadou Ebié.
Ça reste effectivement un paradoxe, parce que l'Afrique est le continent actuellement qui a le plus de terres arables, mais malheureusement, la conjugaison de plusieurs facteurs multidimensionnels font que c'est la région qui souffre le plus de la faim au monde.
Mais qu'est-ce qui explique ça? Quels sont ces facteurs principaux, s'il vous plaît, en gros?
Les facteurs sont multiples, mais les principaux facteurs sont essentiellement la pauvreté. En plus de cela, nous avons donc la démographie qui va à un rythme plus élevé que rapide que la croissance économique et aussi à tous les effets conjugués liés au changement climatique, notamment les sécheresses, les inondations.
Oui, mais bien avant que l'on entre dans ce cycle de sécheresse et de dérèglement climatique dont vous parlez, on parlait déjà de la famine en Afrique. On se souvient encore les images, que ce soit des Somaliens ou des Éthiopiens, au début de la décennie 80, ce n'était pas encore la situation actuelle. Et puis, l'Afrique n'est pas le continent le plus pauvre, comme on le décrit. Est-ce qu'il y a dans ce drame-là la part des Africains qui n'ont pas développé l'agriculture? Là, je me tourne vers M. Ibrahim Koulibaly.
Effectivement, quand on analyse la situation de l'Afrique, on se sent mal. Et comme tout le monde le dit, nous avons des terres, nous avons de l'eau. Mm-hmm. Nous avons surtout une population extrêmement laborieuse, courageuse. Les paysans d'Afrique ne sont pas des paresseux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que premièrement, le premier problème que nous avons en Afrique, c'est vraiment la question de l'incohérence dans les interventions et les politiques publiques. Vous savez, tout le monde peut venir faire ce qu'il veut en Afrique. Et dans ces conditions, il est impossible d'avoir une vision africaine des choses et de les mener à bon port. Je pense que c'est le principal problème que nous avons, est un problème d'élaborer des politiques de façon autonome, de les mettre en œuvre, de les suivre ensemble, de les évaluer et d'avancer.
À quoi vous pensez très concrètement? Quand vous dites que ces politiques sont mal élaborées, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles soient mieux élaborées? C'est du fait des dirigeants,
c'est
du fait de qui?
C'est pas que souvent même les politiques sont mal élaborées, c'est que même quand on les élabore, on n'arrive pas à les mettre en œuvre de façon cohérente. Mmh. Il y a trop d'interférences, trop d'injonctions qui viennent d'ailleurs, qui viennent perturber la mise en œuvre. Et nous-mêmes, on ne met pas les moyens souvent pour la mise en œuvre. On attend que l'extérieur vienne financer nos politiques. Ce n'est pas possible de continuer comme ça.
Pour vous, aujourd'hui, vous qui êtes au Mali, régulièrement, on parle de la famine dans le Mali, on parle de l'insécurité alimentaire dans le Mali. Pour vous, c'est essentiellement le fait de ces stratégies qui sont arrêtées, qui ne marchent pas, ou bien est-ce qu'il y a un autre facteur? Là, tout à l'heure, M. Ebié parlait de, on va dire, du changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous affecte? Est-ce qu'il y a une période dans l'année où vous vous dites c'est impossible de travailler et que vous êtes obligé d'attendre de l'aide?
Les changements climatiques sont une réalité, mais ce n'est pas un facteur qui nous empêche de nous nourrir. Nous sommes, je pense que dans la plupart des régions aujourd'hui sahéliennes, les gens se sont très bien adaptés à ce problème, parce qu'ils savent que c'est une question qui va rester perpétuellement probablement. Mm-hmm. Mais le vrai problème, c'est que nous faisons des excédents de production quand il y a une bonne année de pluviométrie. Qu'est-ce que nous faisons pour gérer ces excédents de production? Mm-hmm. Et vous savez, on va parler de la réserve régionale. C'est une attente énorme des organisations paysannes que nous sommes, parce que c'est nous qui avons commencé à mettre des banques de céréales, des groupements de stockage au niveau local. Mais vous savez, s'il n'y avait pas une intervention de l'Union européenne avec ses plus de 50 millions, la réserve, on n'aurait jamais démarré ce stockage régional. La région même n'a pas mis un centime, pratiquement pas mis d'argent. Ce n'est pas possible. Si on élabore nos politiques, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de les financer. Nous ne sommes pas une région extrêmement misérable à ce point. On élabore des politiques, on attend que les autres viennent mettre les moyens pour les financer. Donc, pour moi, la question, elle est à ce niveau. On a des bonnes visions, on élabore des politiques, la politique de la CEDAW est une très bonne politique, élaborée avec les organisations paysannes, qui a tous les éléments pour développer cette région.
Alors là, je me tourne vers M. Olosib. On sait que le Programme alimentaire mondial a même fait une cartographie de l'insécurité alimentaire sur le continent. Avant de passer aux solutions, quand on regarde cette carte, qu'est-ce qui en sort très concrètement, puisque ça devrait normalement donner les raisons qui font que ces régions-là soient frappées par l'insécurité alimentaire? C'est quoi les causes?
C'est une excellente question et je pense que c'est bien qu'on commence par celle-là, parce que si on ne connaît pas les causes, après tout le reste de la discussion, on aura du mal à adresser les vrais problèmes. Et il y a un problème qui a été touché et qui est clé. La clé, c'est qu'on est dans un système de production qui va dépendre énormément des conditions climatiques. Et donc, dans beaucoup de parties de ce continent, y compris l'Afrique de l'Ouest, qui est notre focus aujourd'hui, les questions de changement de climat et leur implication, leur impact sur les systèmes de production, que ce soit l'élevage et l'agriculture, est un fait majeur qu'il faut adresser. Mmh. En plus de cela, si vous avez une production agricole qui n'est pas, je vais dire, qui est instable parce qu'elle est liée à des facteurs climatiques que nous ne contrôlons pas, alors les compétitions pour les ressources qui existent aussi augmentent. Mm-hmm. Et cette augmentation des ressources, c'est aussi un des facteurs des conflits qui est aujourd'hui, dans le contexte de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest en particulier, un facteur majeur de l'insécurité alimentaire qui va avoir des implications sur toutes les autres dimensions de la sécurité alimentaire.
Mais lorsqu'on entend ça, M. Olosib, on se dit, on n'est pas le seul continent où il y a des dérèglements climatiques. Qu'est-ce qui fait que ce soit plus grave dans ces régions dont vous parlez, notamment en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il n'y avait pas au départ un facteur qui était favorisant de cette situation?
Alors, il est certainement plus grave. On va dire, on ressent davantage les effets en Afrique de l'Ouest que peut-être dans d'autres parties du monde, parce qu'on est sur des systèmes préexistants qui sont fragiles. Mmh. Et c'est là l'investissement doit aller pour renforcer ce système existant, le système de production, le système d'élevage, l'organisation des communautés autour donc, d'un certain nombre de territoires qui vont permettre à ce que les communautés puissent absorber au mieux les difficultés liées aux chocs climatiques qui vont se présenter, qui sont des facteurs qui, de toutes les façons, que les populations ne peuvent pas contrôler.
Alors, Monsieur Sékou Sangaré, lorsque vous entendez cela, vous qui êtes en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, j'ai pas beaucoup entendu la question de l'eau en elle-même. Est-ce que la question de l'eau, qui est forcément liée au dérèglement climatique, n'est pas l'une des principales causes dans la région Afrique de l'Ouest, notamment dans la zone sahélienne?
Toutes les raisons qui ont été évoquées par le trois prédécesseurs pour expliquer le problème de l'insécurité alimentaire et de la famine en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont tout à fait fondées et elles sont complémentaires. Et vous-même, vous y ajoutez un autre facteur important, c'est le problème de la maîtrise de l'eau dans notre agriculture. L'ensemble de ces éléments analysés nous donne un système de production ou quand même la productivité agricole, en ce qui concerne notamment la production vivrière, cette productivité elle est très faible. Le rendement au niveau des céréales, d'après en général, dans les exploitations agricoles, c'est de 700 à 800 kg à l'hectare, alors que l'intérêt, en optimisant les conditions de mise en valeur, multiplier les rendements par 3 ou par 4, aussi bien pour le maïs, pour le riz, pour également des tubercules et même pour des céréales comme le mille et le sorgho.
On va parler de ces solutions puisque vous êtes déjà aux solutions en évoquant tout cela, mais je voulais que l'on ait déjà fait un état des lieux aujourd'hui. Alors, je me retourne à nouveau vers Monsieur Olosib. Aujourd'hui, quelle est la région la plus touchée? Quels sont les pays les plus touchés aujourd'hui? Et en quelle saison?
Si vous regardez la carte aujourd'hui de l'insécurité alimentaire dans la région, les zones les plus affectées par l'insécurité alimentaire se superposent exactement avec les zones de conflit. Ça, c'est un fait qui est très marquant. L'insécurité alimentaire est extrêmement liée au conflit dans la région. Toutes les zones de conflit, on a des niveaux d'insécurité alimentaire extrêmement élevés.
Donc aujourd'hui, quand on regarde, on pense au Mali, on pense au Tchad, aujourd'hui, une partie du Tchad.
On pense au Burkina, on pense au Litapo Gourma, on pense à la région du lac Tchad, qui sont des zones qui ont les taux d'insécurité alimentaire les plus élevés.
Et puis on pense aussi à la République démocratique du Congo, la partie est de ce grand pays.
De ce grand pays donc, qui est l'est du Congo, qui est aussi avec une situation d'insécurité alimentaire élevée en raison du conflit. Vous pouvez descendre jusqu'au ce qui se passe aujourd'hui en Mozambique.
En Mozambique.
Et ainsi de suite. Donc les cartes de l'insécurité alimentaire de façon globale sur ce continent sont extrêmement liées au conflit.
Donc les conflits, en plus du dérèglement climatique dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire que s'il faut combattre l'insécurité alimentaire, il faut peut-être déjà commencer par amener la paix dans ces régions-là, peut-être que les gens auraient le moyen de travailler en toute quiétude, M. Sékou Sangaré.
Oui, je pense que c'est fondamental, la question de la paix en Afrique de l'Ouest est une question fondamentale, parce qu'à cause de cette situation de violence, notamment dans les pays du Sahel, au nord du Nigeria, autour du lac Tchad, nous avons une insécurité alimentaire qui affecte, disons, pour cette période de subir, plus de 27 millions de personnes, alors qu'il y a 4 ans, il y a 5 ans, nous tournions autour de 6 millions, de 7 millions, ce qui fait que l'insécurité est un effet extrêmement, si vous voulez, très, très négatif et qui impacte négativement sur les problèmes, sur les efforts et les investissements qui sont réalisés. Mais ceci dit, je voudrais rappeler que malgré ce contexte d'insécurité, si vous prenez la plupart de ces pays et que vous abordez, par exemple, les problèmes du coton, de la culture du coton, vous remarquerez que la plupart de certains de ces pays, comme le Mali, ont des niveaux de production de coton qui sont extrêmement importants. Donc, à côté de l'insécurité, on revient toujours aux fondamentaux microéconomiques, c'est-à-dire payer un environnement qui permettent à l'exploitant agricole
de pouvoir
avoir des décisions très claires, qui lui permettent à la fois de produire mieux, parce qu'il a accès à un certain nombre de facteurs de production qui l'incitent véritablement et qui lui facilitent le travail. Il a accès à des formations et à des études, et en même temps,
Absolument. Et là, j'ai envie de poser la question à Monsieur Ibrahim Koulibaly. Lorsqu'on entend ça, on dit on produit du coton dans ces régions-là, on produit pas mal de choses qui sont essentiellement pour l'exportation, qui sont des matières premières pour ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, l'agriculteur malien, par exemple, ne se dit pas je dois produire ce que je mange d'abord avant le coton?
Oui, merci, Monsieur Foucault. Je pense qu'effectivement, tout cela a un lien étroit avec cette problématique de cohérence et politique. Vous savez, et si on regarde notre facture alimentaire dans la région, c'est un vrai scandale. Cet argent, il va où? Il va dans les pays asiatiques pour acheter du riz, alors que nous sommes une région qui a un potentiel de production de riz qui est énorme. Si on ajoute le riz pluvial dans les régions sud, il n'y a aucun problème pour qu'on se nourrisse avec le riz. Mais ce que la Thaïlande a fait comme politique par rapport au riz, si notre région fait ça pendant 2 ans, je vous assure, on va couler sous des excédents. Parce que j'ai été en Thaïlande, j'ai vu ce que c'est fait là-bas. Mais chez nous, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne comprend même pas. Parce que c'est comme si on fait exprès de ne pas avancer. Donc, pour nous, nous posons des questions aux décideurs politiques. Et même quand on parle de cette question d'insécurité, qu'est-ce qui a provoqué cette insécurité? C'est parce qu'on n'a pas investi dans les familles paysannes. Il n'y a pas de combattant qui est venu d'ailleurs pour rendre les régions instables. Ce sont des enfants des paysans qui attaquent aux hommes de leur propre pays. Parce qu'on n'a pas prévu d'investir pour qu'ils soient, ils aient une vie digne. Aujourd'hui, ils suivent des chimères peut-être, mais ils n'ont pas d'autre option. Peut-être, probablement. Donc, je pense que c'est cette impossibilité d'avoir des visions sur le long terme, d'y investir. Tout est concentré dans le capital. Toute la richesse nationale est consommée dans le capital par une minorité de gens. Et on veut que le reste des pays soit stable. Ce n'est pas possible. Si la question n'est pas posée en termes, on va continuer à parler de terrorisme, mais ça va rester. On ne va jamais en sortir.
Donc pour vous, il va falloir que l'on se tourne vers les zones rurales pour s'occuper des paysans et leur permettre de produire pour pouvoir nourrir le reste de la population, ou au moins se nourrir. Et puis peut-être aussi changer le type de culture, non?
Il y a des études qui ont été faites au Mali qui montrent que presque 80% de la richesse nationale du Mali, du budget, est consommée par l'armement seulement. Donc je pense que c'est la même chose pour tous les pays de la région. Donc vous voyez, ce n'est pas possible qu'il y ait la paix dans le pays. Ça, on ne le dit pas. Les officiels ne vont jamais dire des questions comme ça. Donc, même quand on a une bonne politique, s'il n'y a pas d'investissement, elle ne sert à rien.
Tout à fait. Alors là, je me tourne vers M. Amadou Ebié. Lorsque vous entendez cela, est-ce que c'est la même chose au Burkina et qu'est-ce que vous proposez dans ce sens-là?
Je pense que les situations sont similaires en termes de réalité liée à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et je voudrais dire qu'au-delà du caractère conjoncturel, ces pays, surtout sahéliens, sont confrontés à un problème d'insécurité alimentaire structurelle, pour un coût important, le coût social et économique de la sous-nutrition, déjà, c'est immense. Ça fait en moyenne 3 à 5% du PIB.
Soyons très clairs pour ceux qui nous écoutent. Lorsque vous dites c'est structurel, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que au fil de plusieurs décennies, on n'a pas su gérer les crises, faire face aux crises qui ont eu lieu et qui sont liées aux facteurs que nous avons énumérés et qui ont engendré justement une faiblesse de tous les systèmes productifs et tous les autres systèmes alimentaires qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure d'assurer une saine et pleine alimentation des populations. Nous avons des régions structurellement déficitaires qui sont chaque année en insécurité alimentaire depuis des décennies en effet. Par contre, il y a des régions du pays qui sont en excédent.
En excédent alimentaire. Justement, je voudrais qu'on en parle. C'est-à-dire, il y a quand même une absurdité, une curiosité, c'est que, quelquefois, à 1000 mètres, il y a un excédent alimentaire. Sur les marchés, on jette ce que l'on a produit, alors qu'à 500 kilomètres, d'autres meurent de faim. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre des infrastructures pour que ce soit suffisamment dispersé dans le pays? On en parle juste après une nouvelle édition du journal dans la seconde partie du débat africain, dans une dizaine de minutes. Restez à l'écoute et on se retrouve très très vite pour la suite du débat africain consacré justement à l'insécurité alimentaire post-Covid, puisqu'on va évoquer également la part de la Covid dans cette aggravation de la situation. Restez à l'écoute et à très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Pendant qu'une partie se débarrasse de ses excédents alimentaires, à seulement quelques milliers de kilomètres de là, d'autres meurent de faim. C'est le paradoxe de la question alimentaire en Afrique. Comment mettre un terme à ce fléau de l'insécurité alimentaire qui chaque année fait plusieurs millions de victimes sur le continent? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'insécurité alimentaire en Afrique. Avec au téléphone et sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Monsieur Sékou Sangari, commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Second invité de ce plateau, Ibrahim Koulibaly, président du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Il est en direct de Bamako, au Mali. Notre troisième invité est Monsieur Olosib, conseiller régional senior pour les questions de recherche, analyse et suivi au bureau régional du programme alimentaire mondial, le PAM, basé à Dakar. Amadou Ebié, notre quatrième invité, est chargé de programme sécurité alimentaire régional, secteur développement humain et social de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il est en direct de Ouagadougou. Alors, l'insécurité alimentaire, on en parle depuis tellement d'années. Il y a des organismes et des Nations Unies qui sont chargés de cela. Et on se rend compte qu'elles sont là plus pour suppléer maintenant, pour apporter ces denrées-là. C'est le sentiment que cela dégage de plus en plus, Monsieur Olosib. Est-ce que le rôle du PAM, c'est de chercher ces denrées-là ailleurs pour ramener à ceux qui en ont besoin? C'est bien ça le rôle?
Je voudrais juste revenir un tout petit peu avant de prendre cette question, juste sur la question d'avant. 32% des céréales consommées dans la région cette année, quand on regarde le bilan céréalier de la région, sera importé.
Si on 32%, oui.
32%. Si nous comparons les importations de l'année 2020 comparées à 2019, qui ont été présentés récemment lors de la réunion du Project Palestine, on voit que par tous les pays de la région, on a une hausse importante des importations de céréales cette année.
C'est quand même important. C'est plutôt important. Grave. Parce qu'on croyait qu'il y aurait de moins en moins de céréales, que l'agriculture permettrait de plus en plus de se nourrir.
C'est un fait important. Et pour répondre à ce fait qui est important, les organisations comme le PAM,
Le
programme alimentaire mondial, on est en appui au gouvernement et on est en appui aux organisations régionales. Il n'y a pas de substitution possible. Il n'y aura pas de résultat s'il y a une substitution des organisations internationales au système des pays et au système régionaux. Mmh. Ça doit être l'inverse. Les systèmes des pays, les systèmes régionaux ont le lead, conduisent et les organisations internationales viennent en appui, et c'est exactement ce que le PAM fait sur plein de domaines dans lesquels le PAM intervient.
Monsieur Olosib, puisque vous parlez de chiffres, en termes de chiffres, lorsque vous dites 32%, combien ça coûte exactement chaque année ce que l'on donne pour résoudre la question de l'insécurité alimentaire en Afrique?
Si je vais prendre cette région qui est peut-être le plus pertinent, l'Afrique de l'Ouest, pour vous donner un niveau des investissements et des contributions qu'une organisation comme le programme alimentaire fait dans la région sur différents types de programmes. L'année dernière, en 2020, 18 millions de personnes ont eu besoin de l'assistance humanitaire produite par le PAM. Et si vous regardez ces personnes qui ont reçu l'assistance humanitaire, une grande partie de cette assistance alimentaire qu'ils ont reçue a été achetée localement. On parle de plus de 130 millions de dollars d'investissement qui ont été faits par le programme alimentaire dans la région, achetés localement.
Oui, parce que ce qu'on fait souvent comme reproche au programme alimentaire mondial et à plusieurs organisations qui sont dans l'humanitaire et qui apportent des denrées sur le continent, c'est de prendre des produits ailleurs et de les ramener sur place. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on ne favoriserait pas, avec ce budget-là, une production locale? Est-ce qu'on ne pourrait pas développer l'agriculture sur place avec autant de millions de dollars qui, quelquefois, nourrissent plutôt les agriculteurs, on va dire, américains en général?
Alors, pour revenir sur ça, le développement de l'agriculture, le programme alimentaire mondial dans les 5 pays du Sahel est sur un programme majeur de résilience qui prend en compte un point important de la production, notamment l'accès à la terre. Il y a des terres qui ont été abandonnées parce qu'on a considéré qu'elles sont infertiles. Les programmes que nous menons, que le programme alimentaire mondial mène, ont permis de récupérer à ce jour plus de 70 000 hectares de terres arables sur lesquelles des milliers de paysans peuvent aujourd'hui produire.
L'autre ça, c'est un aspect que l'on ne connaît pas sur le travail du programme alimentaire mondial.
Tout à fait. Il y en a bien d'autres. Regardez par exemple, même les modalités de transfert de l'assistance alimentaire aujourd'hui. Le programme alimentaire mondial fait de moins en moins de la distribution d'aide alimentaire directe. Beaucoup de l'aide apportée au Mali, au Burkina, au nord du Nigeria, au Tchad, tous ces pays de la région où on a des programmes importants, le programme alimentaire mondial intervient, on intervient aussi sur des modalités de cash direct. Ça veut dire soit à travers des coupons, soit à travers des bons alimentaires, soit à travers de l'argent directement remis aux paysans, et on parle pour l'année qui vient de s'écouler, donc en 2020.
Donc il y a de votre part aujourd'hui une aide aux agriculteurs locaux, c'est-à-dire vous leur permettez enfin de pouvoir se développer sur place. C'est aussi ça le rôle du PAM aujourd'hui? Ça fait partie de vos prérogatives?
C'est un axe majeur de la réponse du PAM dans la région. Si je vous donne le volume juste en termes de contribution et d'investissement d'argent, de ressources qui ont été données à travers ces bons alimentaires en 2020, c'est presque 260 millions de dollars qui ont permis à des paysans, qui ont permis à des ménages d'acheter directement de la nourriture sur les marchés locaux.
Alors, c'est important d'accompagner ces gens-là dans une autre agriculture. Monsieur Ibrahim Koulibaly, lorsque vous entendez ça, vous avez cet appui-là. Qu'attendez-vous de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais vous produisiez pour nourrir les gens sur place, pour que vous ne soyez plus assistés? Surtout après ce qui vient de se passer avec la Covid, qui a montré que l'on peut fermer les frontières et que l'aide ne peut plus arriver quelquefois.
Je voudrais confirmer effectivement qu'il y a une évolution réelle dans les programmes d'aide alimentaire qui ne sont plus en grande partie importés. Mais le vrai problème, c'est qu'encore là, et y compris par rapport au stockage régional et national, c'est que l'argent ne va pas chez les paysans, ça enrichit des commerçants. C'est-à-dire, c'est ça qu'on ne veut pas dire. Et c'est ça le problème. Si l'argent allait chez les paysans, ça leur permettrait effectivement de s'équiper en bœuf de labour, en charrue, pour pouvoir labourer à temps quand il pleut. Parce que la plupart des paysans dans cette région n'ont pas d'équipement de base. Les politiques ne leur l'ont pas donné. Et comme les prix sont très mauvais, et qu'à moins de la récolte, les paysans sont obligés de brader leur récolte, et après ils deviennent acheteurs. C'est ça le problème du foncier, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc tant qu'on n'aura pas des décisions politiques réelles...
Pour vous, il faut arrêter de donner l'argent simplement aux commerçants et aux marchés, mais aider les paysans, venir en aide rapidement aux paysans pour qu'ils produisent. C'est bien ça.
Monsieur Foucault, les céréales doivent être achetées avec les organisations communautaires, les organisations paysannes de base qui font du stockage. On doit les aider à avoir des magasins pour stocker parce que le stockage est compliqué. On peut les aider à avoir des magasins aux normes. Toute une politique régionale, nationale doit faire des choses comme ça. C'est ça que moi j'ai vu en Thaïlande.
Monsieur Amadou Ebiye, pourquoi ça ne se fait pas, vous qui êtes chargé de programme sécurité alimentaire régional, secteur développement humain et social de l'Union européenne? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne les accompagne pas dans ce stockage dont parle M. Ibrahim Koulibaly pour les périodes de soudure?
Oui, je pense que M. Ibrahim Koulibaly a évoqué l'appui de l'Union européenne en accompagnement à la stratégie régionale de sécurité alimentaire de la FEDEAO. Nous avons financé à hauteur de 56 millions d'euros le projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire, justement qui a permis de mettre en place un fonds physique régional et qui est intervenu bien que l'année dernière face à la crise d'insécurité alimentaire et dans le contexte Covid pour soutenir le Niger, le Mali, le Burkina et le nord du Nigeria. À hauteur de plus de 2 millions d'euros, l'Union européenne est intervenue en tant que tiers payant. Ça veut dire que nous remboursons encore à la FEDEAO pour reconstituer le stock déjà régional en place. Donc c'est une expérience inédite et nous pensons que au-delà de ce stockage régional à développer qui vient en complément des stocks nationaux de sécurité alimentaire et des stocks paysans ainsi que des stocks privés, il y a beaucoup plus d'urgence à faire. L'urgence serait de changer de paradigme par rapport donc à la question mobilisation politique en faveur des systèmes alimentaires plus résilients et plus durables. Et je pense que c'est dans cette perspective que le monde entier se mobilise, y compris l'Union européenne, en prélude donc à l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se pencher sur les systèmes alimentaires en septembre 2020.
21.
En attendant, donc, les gens ont besoin de vivre maintenant. Les programmes, on en fait depuis des années, mais les gens ont besoin des solutions claires, concrètes, aujourd'hui, tout de suite, parce que les projets, quelquefois, ça dure trop longtemps avant d'être mis en œuvre. Monsieur Sékou Sangaré, vous qui êtes commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CDAO, là, on parle de stockage. Pour vous, c'est une urgence, non?
Oui, pour nous, à la CDAO, le stockage est une urgence. Le stockage avec des infrastructures qui sont placées dans le cadre de la chaîne de valeur de toute la production, depuis le champ de production jusqu'au niveau de la distribution, de façon à ce que, avec son infrastructure de stockage, les organisations de producteurs dans les villages puissent avoir accès à de meilleures semences de qualité pour aider de l'engrais, des produits phytosanitaires pour approvisionner leurs membres, que les services d'encadrement puissent accompagner et former les agriculteurs et que par la suite, on puisse les aider pour acheter, collecter et transformer localement pour y transférer de la valeur ajoutée dans les villages et qu'à partir de ce moment, les OPA, les coopératives, peuvent passer des contrats avec, disons, des commerçants, le secteur privé, pour approvisionner le marché et peut-être aussi pour des quantités plus importantes dans le cadre des agro-industries qui se développent. Alors, je pense que l'environnement qui a été créé pour développer les filières cotonnières et les filières d'exportation, le même type disons, d'environnement microéconomique devrait exister dans les bassins de production au profit des organisations de producteurs pour que ensemble les gens puissent, disons, produire dans des conditions qui sont tout à fait provisionner le marché.
Alors, l'autre aspect, Monsieur Sékou Sangaré, l'autre aspect, c'est le fait qu'il y a quand même une incongruité. Dans certaines régions du continent, on est en excédent de production. Les mamans, les femmes, les paysans, quand ils vont sur le marché, ils n'ont même pas la force de ramener ce qu'ils n'ont pas pu vendre, ce qui pourrit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une urgence, Monsieur Olossib, à mettre un accent sur, on va dire, l'intégration régionale en faisant des routes, en facilitant le déplacement des marchandises?
Il y a deux niveaux, hein, Monsieur Foucault. Le premier niveau, juste pour clarifier que l'appui direct aux ménages est un facteur important pour stimuler le niveau de production locale parce que, comme l'a dit le président de la OPA, un des problèmes qui démotive la production, c'est que le niveau des prix aux paysans sont bas parce que aussi le pouvoir d'achat auprès des personnes qui achètent directement auprès de ces paysans est bas. Donc la réponse à travers l'augmentation du niveau du pouvoir d'achat des populations rurales avec des injections d'argent à travers des programmes de protection sociale ou d'appui comme celle que le programme alimentaire apporte pendant les périodes de soudure est extrêmement important. Le deuxième point qui est important, juste que je voudrais préciser, c'est que le commissaire a soulevé sur la transformation. La transformation va nous permettre de régler un problème majeur qui est les pertes post-récolte. Une grande partie de notre production sur ce continent est perdue après la récolte parce qu'on n'a pas de système de stockage approprié, mais surtout parce que le système de transformation est défaillant. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial est en train de soutenir le gouvernement ghanéen pour la construction d'une usine. Elle est déjà achevée, elle va être inaugurée dans les tout prochains jours pour la transformation du maïs. Comment si c'est le bassin de la production de maïs au Ghana pour pouvoir transformer localement la production de maïs à Kumasi et l'enrichir pour qu'il soit un produit nutritionnel de valeur qui va être racheté certainement par une partie par le programme alimentaire mondial et redistribué dans les autres parties de cette région qui sont déficitaires.
Alors la Covid a montré que à un moment ou un autre, va bien falloir qu'on se dise que les frontières peuvent être fermées à tout moment, donc il va falloir se battre pour avoir de la production locale. Est-ce que on ne devrait pas se rapprocher dans cette lutte pour l'insécurité alimentaire des paysans pour leur montrer d'autres produits qu'ils peuvent avoir sur leur plantation, Monsieur Amadou Ebié?
Oui, je suis parfaitement d'accord dans cette orientation. Il faut bâtir des programmes qui renforce les capacités des petites exploitations familiales à diversifier leur production agro-civole, pastorale et halieutique. Et je pense que c'est ce qui peut renforcer leur résilience face à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Mais au-delà de ça, il faut au niveau de chaque pays déjà investir davantage dans l'agriculture, investir sur les marchés, les circuits de transformation, de distribution et aussi de transport des produits agricoles. Ça, c'est la somme essentielle de travailler à améliorer l'éducation nutritionnelle et les systèmes donc, de qualité sanitaire des aliments. Tout cela est quand même essentiel pour assurer la sécurité alimentaire des populations.
Alors, lorsqu'on parle d'insécurité alimentaire, il ne s'agit pas que de la famine, parce qu'on pense la plupart du temps à ceux qui ne peuvent pas manger une fois ou deux dans la journée. Mais on parle aussi de la qualité de ce qui nourrit correctement l'être humain, les enfants notamment. Monsieur Olossi, est-ce qu'il n'y a pas une démarche à entreprendre auprès des paysans, auprès des femmes, auprès des villageois, pour leur dire « voici ce qu'il vous faut pour votre équilibre alimentaire ». Est-ce que ce n'est pas aussi une priorité? Parce qu'on parle toujours de famine, mais dans certaines régions, il y a à manger, sauf que ce n'est pas diversifié et que ce n'est pas suffisamment riche.
Alors, il y a des programmes nutritionnels qui sont mis en place, et ces programmes nutritionnels ne sont pas uniquement basés sur la distribution de produits nutritionnels. Il y a aussi tout un ensemble de ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle qui accompagne ces programmes, qui doivent être mis à l'échelle, comme vous l'avez dit. L'autre point que vous soulevez qui est extrêmement important, c'est que la qualité, et ça rejoint toute la discussion sur les réserves alimentaires, et comme le PAM l'a déjà confirmé auprès de la CEDEAO, le PAM est totalement aligné avec la politique de la CEDEAO, notamment donc les trois niveaux de stockage. Une des expériences que nous avons tirées au Burkina en travaillant avec la SONAGES, qui est la réserve nationale burkinabé, c'est qu'effectivement, on doit travailler sur la qualité. Parce que c'est en travaillant sur la qualité qu'on s'assure qu'on a des produits de nutrition, des produits alimentaires qui sont aptes à la consommation et qui vont permettre aux populations qui les consomment de maintenir cette vie finalement saine et productive.
Un équilibre alimentaire. On va finir avec M. Ibrahim Koulibaly en disant, est-ce que cette démarche est comprise par les paysans, par ceux que vous représentez au sein de l'AROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest?
Les paysans sont prêts, c'est-à-dire on essaie toujours de mettre en avant la question de différence d'organisation des paysans. Mais en réalité, personne ne peut avancer sans investissement. Nous ne recevons aucun investissement. Mais malgré ça, nous sommes les principaux investisseurs dans l'agriculture. Tout le monde, ça s'est prouvé aujourd'hui, et c'est nous qui nourrissons en grande partie nos pays. On plaide simplement pour que nos États travaillent autrement. Vous savez, quand moi j'ai fait des campagnes de formation ou des formations au niveau local pour les paysans locaux, quand je parle de la CEDEAO, les gens, tout de suite, ils parlent d'embargo. C'est-à-dire que l'image qu'ils ont, les paysans ont dans les pays de la CEDEAO, c'est l'embargo. Quand il y a un coup d'État qui met l'embargo sur le pays, c'est très grave. La CEDEAO devrait être vue comme étant cette institution qui a une politique régionale très bien élaborée, qui a été faite avec les organisations paysannes, qui met l'accent sur les leviers majeurs qui peuvent nous permettre de nous nourrir, de nous développer, mais qu'on n'aille pas à faire cela.
Alors, on va revenir sur cette question dans une prochaine émission, qui est cette relation entre la CEDEAO et les organisations paysannes et d'autres organisations avec cette question d'embargo. On n'a malheureusement plus le temps pour aller plus loin. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de venir en débattre. Le temps tourne vite, on aurait aimé continuer la discussion. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui, mais on termine en disant la dignité vient à partir du moment où on arrive à se nourrir. Et il est impératif que cette question d'insécurité alimentaire soit prise très au sérieux par les dirigeants afin que les Africains retrouvent leur dignité et qu'on ne parle pas tout le temps d'insécurité alimentaire en les pointant du doigt. Merci à vous en tout cas, monsieur, d'avoir accepté d'en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
L'épopée des musiques noires.